leur chant. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir et demain avec Pierre Bergugno. Pierre Bergugno, nous, lecteurs de votre œuvre, nous avons l'impression de savoir beaucoup de choses de vous parce que vous dites beaucoup de fragments de votre vie intime, de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle à l'intérieur de vos livres. Votre registre est très impressionnant. Vous avez publié plus de 40 livres, à la fois des livres d'histoire de la littérature, à la fois des fictions, des romans, des autobiographies. Et puis ces carnets qui chacun font plus de 1200 pages, où vous écrivez par le menu ce qui se passe dans une vie quotidienne, dans une vie ordinaire, de l'enseignant que vous êtes. À partir de quand est venue la sensation que la lecture était à la source de l'émerveillement de l'existence?
Très tôt. Mes parents étaient des lecteurs assidus. Et il existait une bibliothèque municipale à laquelle ils m'ont conduit dès l'âge le plus tendre, dès que j'ai su lire. Donc je m'y suis rendu par la suite seul, et je sais que je m'étourdissais de lecture, sachant bien que ce qu'on avait à disposition n'était pas forcément de nature à permettre qu'on se fasse une idée de ce qui se passait sur la Terre, mais c'était déjà une sorte de prémonition qu'on avait de ce que la vie qu'on menait n'était pas la seule. Et que, faute de se déplacer, parce que les temps n'étaient pas encore venus, par corps, on avait toujours la possibilité, en pensée, eh bien, de s'informer de ce qui se passait au loin. Et par contre-coup, on s'avisait que les vies que nous menions avaient un caractère encore d'obscurité. On habitait sur la périphérie, un pays sans légende. Et je crois me rappeler d'avoir été assez vivement frappé par le fait que, alors que généralement les ouvrages que je consultais parlaient invariablement de choses qui s'étaient passées ailleurs, il ne s'en trouvait pas qui puisse m'éclairer sur la vie que j'avais, parce que ma petite patrie semblait dépourvue de reflets ou d'échos dans les volumes imprimés. Et je sais que c'était une source précoce de perplexité. Et que peut-être que, sur le tard, le monsieur d'un certain âge que le temps a fait de moi répond à l'injonction montée du fond du temps que lui dresse l'enfant qu'il a été et qui lui demande les éclaircissements qu'il n'était pas en mesure alors de se procurer.
Mais l'enfant que vous avez été, Pierre Bergugno, était un enfant inquiet, un enfant angoissé. Ses parents étaient à son chevet souvent parce qu'il y avait... une dame noire qui s'approchait de vous et qui déjà vous faisait souffrir. Il y a cette chose dans la poitrine.
Oui, cette inquiétude, des parents attentionnés, une mère extrêmement aimante. De surcroît éclairée, j'ai eu ce bonheur, ce privilège d'avoir une mère qui était bachelière dès 1940. Alors aujourd'hui, rien de banal comme le fait d'accéder au baccalauréat. Seulement à l'époque, j'ai eu la curiosité de consulter l'annuaire statistique de l'éducation nationale, ce sont 3% très précisément des jeunes filles qui accédaient à cette dignité. J'avais à ma disposition, si je puis ainsi m'exprimer, une toute petite dame qui non seulement était aimante, attentionnée infiniment, mais de surcroît suffisamment éclairée pour me faciliter l'existence et, lorsque je n'allais pas trop bien, me prodiguer tout ce qu'on peut escompter de réconfort lorsqu'on commence, lorsqu'on est enfant, oui.
Alors, dans votre journal intitulé Carnet de notes 1991-2000, vous écrivez à la date du 17 juillet 2000, La douleur est violente, transfixiante, paralysante. Je refuse d'abord d'admettre que j'ai mal, que la souffrance m'empêche de rien faire, sinon la tenir en respect comme une bête fauve qui aurait bondi de l'intérieur. J'empoigne la meuleuse avec l'intention de continuer comme si de rien n'était, mais il me faut rapidement la reposer, gagner à pas compter la salle à manger que je ne quitterai pas de la journée. Et puis le lendemain, vous écrivez, levé à 6h30, je retrouve la douleur au réveil, mais elle a perdu l'intensité incapacitante d'hier. Je me rends avec précaution à l'atelier, soude ensemble 5 vieilles serrures, bloque les articulations d'une forte chaîne de transmission en position de sphinx, monte une copie de masque clé plié. Et on a l'impression, tout au long de ce journal, Pierre Bergougnou, que cette douleur, elle existe depuis l'enfance et qu'elle continue comme une sorte de compagne, à la fois à vous illuminer et à la fois à vous donner des forces pour pouvoir tenir debout.
Oui, sans doute, oui, c'est au contact de l'adversité, je crois, que nous nous éprouvons, que nous prenons peut-être la plus exacte mesure de nous-mêmes. Oui, je pense à un mot d'Héraclite. La guerre, le conflit et la mère ou le père de toute chose, oui. Oui. Et il me prend fantaisie de m'adonner encore des activités un peu brutales, enfin aux vacances, du moins. Faire la soudure, travailler le fer. Et comme c'est quelque chose à quoi je ne suis pas régulièrement formé, eh bien je m'expose à toutes sortes de mécontes, à me faire mal. Bon, ça fait partie du prix à payer lorsqu'on a formé le dessein de réaliser certaines aspirations qu'on a, de sacrifier à certaines lubies qui sont elles aussi nos très anciennes et assidues compagnes qui réclament bien qu'on leur offre leur pâture.
Tout à l'heure, vous évoquiez votre enfance, votre mère, la lecture. Il y avait donc la vie rêvée, celle dans les livres, et puis la vie réelle. Mais cette vie réelle, vous ne l'avez jamais dédaignée. Et d'ailleurs, vous en faites écriture, notamment dans ce très beau livre qui s'intitule « C'était nous », où vous parlez de vous et de votre propre cousin.
Oui.
Et on a l'impression que la nature environnante, cette Corrèze où vous passiez tous vos étés, elle était omniprésente et que ce sentiment de l'existence, vous le perceviez au plus intime de vous-même, être vivant.
Oui, sans doute, très intensément. Et à proportion de ce qu'il s'agissait d'une région encore retardataire, ensauvagée, qui nous offrait ce qu'on appelle, je crois, les biens sans maître. Par exemple, des créatures que j'ai trouvées merveilleuses à la première rencontre, certains insectes. Je m'étais mis à collectionner les insectes parce que certains d'entre eux brillent d'un éclat extraordinairement vif, possèdent des formes tout à fait séduisantes, s'apparentent à des joyaux, à des gemmes. Il y avait des lieux qui semblaient encore comme des enclaves du jardin de l'Éden, où la trace de l'homme, du travail humain, n'était pas véritablement perceptible. C'était en quelque sorte la contrepartie positive de ce que les économistes appellent les mauvaises terres. Comme il n'y avait pas véritablement de partie à tirer de sol très, très ingrat, ils étaient abandonnés à eux-mêmes, et des âmes enfantines pouvaient s'émerveiller de se trouver placées comme directement en contact avec une sorte de nature première, primitive, vierge, un sentiment de l'existence extrêmement intense, mais dont la rançon était que nous restions coupés encore des foyers de la culture de ce temps. Je me souviens que dès qu'on s'écartait, par exemple, de ma sous-préfecture natale, la langue qui avait cours dans la campagne était le dialecte d'oc. Et j'ai été très, très, très surpris plus tard lorsque j'ai ouvert, par exemple, les œuvres des troubadours. Je pense à des gens comme Bertrand de Born ou Bernard de Ventadour, de découvrir imprimé noir sur blanc une langue que j'avais recueillie sur la lèvre de vivant. Et c'était une chose très singulière que de voir des universitaires s'occuper d'un état de langue qui pour eux était lettre morte, alors que pour ce qui me concernait, c'était quelque chose qui meublait encore l'air atmosphérique de mes jeunes années. C'est une période de transition, c'est la fin du néolithique ou de la Gaule romaine, du moins de la société d'ancien régime dans toutes ces régions, toutes ces zones rurales de la France profonde. Il me semble que les gens de notre génération, ceux de l'après-guerre, ont passé en quelque sorte d'un temps immobile, très ancien, à l'heure qu'il était, avec, par voie de conséquence, l'obligation de reconsidérer les premiers principes qu'ils avaient reçus pour essayer d'être de maintenant, de vivre au présent.
Nous allons écouter la voix d'Henri Thomas, qui va parler de ce qui fait la continuité d'un individu. C'était un entretien avec Claude Rémusat dans l'émission de France Culture Poésie ininterrompue du 20 juin 1976.
Je n'ai pas la notion de la continuité. D'abord parce que tout ce qui appartient au passé appartient à la mort, inévitablement. Et il ne faut pas trop y toucher. Mais où est la continuité d'un être? Je ne sais pas. La mienne, elle est dans ce qui m'attire dans l'avenir.
Elle est peut-être dans cette dédicace que vous avez faite à Yvon Bellaval de votre livre Sous le lien du temps, où il dit « Mais l'essentiel de la continuité n'est pas tellement qu'on doive pouvoir parcourir tous les intermédiaires, c'est avant tout que la même raison se conserve, qu'on ait affaire à une cause continue. »
Quand j'ai choisi cette épigraphe, elle correspondait tout à fait à ma pensée. Et d'ailleurs, j'en remercie Bellaval ici. Mais cette cause continue, elle est loin de nous. Elle est une hypothèse indispensable, comme l'âme. Mais dans la vie, je ne vois pas bien ce qui se rattache à ce que j'étais il y a une dizaine d'années. Je ne peux pas rentrer dans mes sentiments. Je ne peux qu'à condition de retrouver des souvenirs. Mais le souvenir, c'est pas la continuité. Le souvenir, c'est quelque chose qui n'est pas mort. C'est donc quelque chose qui a une portion d'avenir à développer. Je crois que la continuité, ce serait la mort. Mais le souvenir n'est pas continu, il appelle à quelque chose. Il veut grandir, il veut trouver son horizon. De sorte que cette cause continue, je la trouve même dans un souvenir. Un souvenir, c'est de l'herbe qui n'est pas encore complètement poussée. L'herbe sèche, nous ne la verrions plus, elle flamberait aussitôt.
Oui, c'est une sorte de présence au fond.
C'est une présence, mais c'est une présence très complexe, puisqu'elle est même dans un souvenir. Disons que la mémoire est une chose incomplète, et elle cherche son complément.
Peut-être vous pourriez vous reconnaître encore aujourd'hui dans ce garçon de 17 ans qui passe ses jours de vacances et la moitié de ses nuits à lire dans le village où personne ne lit.
Oui, mais là, ce sont presque des données historiques. Le village où personne ne lit, c'est la Lorraine, telle qu'elle est d'ailleurs maintenant. On lit si peu en France. Je me suis situé, si vous voulez, là, pas tellement intérieurement que par rapport au petit monde dans lequel j'étais. J'ai vu la lecture comme une sorte de paradis inaccessible à tellement de gens. Vous savez, dans ces villages, le curé donnait 3 brochures le dimanche, c'était tout. Il n'y avait pas de bibliothèque. Quand on voyait un livre, on pensait que c'était un livre d'école. C'était un livre pour les enfants.
Pierre Bergougnou, vous écoutez intensément cette voix d'Henri Thomas. Henri Thomas a beaucoup de points communs avec vous.
Avec mon père. Il est né la même année que mon père. Ils ont partagé le même destin, celui des aînés du XXe siècle. Mon père était de 13. Henri Thomas devait être de 13 ou de 12, je ne sais plus exactement. Le père de Thomas meurt en 14. Le père de mon père meurt en 17. Ce sont des enfants qui grandissent sans père. Chez qui j'ai perçu, tôt, confusément, une bizarrerie à laquelle la plupart d'entre eux sont restés comme étrangers. Et Thomas a toujours suscité une extrême attention de ma part en ce que il est de ceux, en très petit nombre, qui ont fait l'effort de chercher à y voir clair en eux-mêmes, c'est-à-dire dans l'espèce de chaos qu'ils avaient intériorisé, parce qu'ils régnaient sur la terre lorsqu'ils sont arrivés, et que leur corps défendant, ils en participaient. C'est pour ça que j'ai toujours suivi de très très près ce que Thomas a pu écrire, et Dieu sait s'il a écrit, avec l'espoir d'être renseigné, non pas simplement sur sa personne, mais sur cette génération qui nous a devancés, et qui nous a un petit peu, et je parle par euphémisme, compliqué l'existence. Mais parce que la sienne avait été affreusement troublée par l'abomination de la désolation qui s'est abattue sur l'Europe du commencement du XXe siècle, et dont ces innocentes étaient les victimes, à la fois par père interposé, je pense encore à quelqu'un comme Claude Simon, dont le père est également tué très tôt, Simon était de 13. Et nous qui venions après, avons eu à nous débrouiller avec ces devanciers un petit peu déconcertants qui étaient nos pères.
Ce qui est très étrange dans votre itinéraire, Pierre Bergougnou, c'est que vous avez été enseignant très tôt. Était-ce une vocation?
Oui. Ah oui. Oui, dans le ventre maternel, j'avais vocation à être enseignant. Mais ne fût-ce que pour la raison que j'ai appris sur le tard que tel était le vœu que mes grands-parents avaient formé sur le compte de mon père. Mon père aurait dû être enseignant, mais il s'est retrouvé pupille de la nation, orphelin de père à l'âge de 4 ans. Sa mère seule est perdue avec deux gosses sur les bras et dans l'incapacité de lui prodiguer l'assistance, les lumières.
Donc c'était une injonction, presque.
Oui, c'est quelque chose qui montait du fond du temps et à quoi il ne se pouvait pas que j'échappe. Alors je suppose que j'ai été conditionné de telle sorte que dès l'âge le plus tendre, je considérais que le seul destin qui me convienne était celui d'enseignant, de professeur.
J'aurais bien aimé être votre élève, mais ce qui est troublant dans votre itinéraire, c'est que vous avez mis beaucoup de temps à oser publier, puisque oui. Votre premier livre qui s'intitule Catherine a été publié en 1984, qu'ensuite a suivi une quarantaine de livres. Pourquoi avoir attendu si longtemps?
Mais parce que j'étais indigne, comme une bonne partie des gens de ma génération qui sortent de ces culs de basse fosse de la gaule chevelue. Qui ont entendu le ce qu'on appelle le patois, les vieux dialectes partout autour d'eux, et se sont cru excommuniés, comme c'était la règle depuis le fond d'usage, de l'accès à la culture lettrée. J'en reviens à ce que j'ai dit en passant tout à l'heure, à savoir que ce qu'il y avait d'essentiellement paradoxal dans les lectures auxquelles je m'adonnais dès l'enfance, était que les livres me parlaient toujours d'univers auquel j'étais étranger. Et que, à l'inverse, celui dont j'avais l'expérience vécue était absent de ce reflet resplendissant que les livres tendent aux vivants que nous sommes. Donc, j'ai postulé que j'appartenais à une sous-espèce dont, d'une part, la vie était dépourvue de toute espèce d'intérêt et qui, de surcroît, se trouvait interdite d'accès à l'expression publique légitime de son sens. Je n'ai fait ce faisant que me conformer, là encore, à une de ces lois de caractère sociologique dont les individus que nous sommes sont comptables à leur insu ou pas. Le mieux que nous puissions faire étant de prendre acte de ce que nos dispositions apparemment les plus personnelles, les plus intimes, se ressentent d'une détermination supra-individuelle, trans-générationnelle, collective, historique.
Cela signifie que vous avez écrit beaucoup et que vous avez conservé ces manuscrits avant d'oser les publier?
Pas du tout. C'est sur le tard que j'ai tendu une main criminelle et qui tremblait vers la plume pour la porter sur le papier. Mais il était sans exemple que je ne sais plus trop qui qualifie de crétin rural. Sardi, ça parlait de choses qui étaient dépourvues de toute espèce d'intérêt et qui, le crétin rural en question, avait à peine passé depuis une génération et demie, deux générations, à ce que l'édit de Villers-Cotterêts qui était publié par François Ier en 1539 appelle le langage maternel françois.
Alors, ce crétin rural que vous fûtes, ainsi
et,
que vous
demeure.
Et oui, là, ça devient de l'orgueil aussi.
Non, rien ne peut faire que ce qui a été ne se soit pas produit. Un mot de Grodeck, je fais le prof, là. On a tous les âges à chaque instant.
Mais vous avez raison de faire le prof. D'ailleurs, vous êtes un très bon prof. Vous avez publié un livre que je recommande à tous les auditeurs de 7 à 77 ans qui s'intitule « Bréviaire de littérature à l'usage des vivants ». Nous allons écouter, pour vous et grâce à vous, la voix de William Faulkner, qui va nous parler du bruit et de la fureur, du style que chaque sujet impose à ses livres et qui va tenter de définir son propre univers. C'est une archive qui date de 1955.
Quel bonheur!
C'est celui qui m'a donné le plus de peine, qui a été la meilleure faillite, le bruit et la fureur.
Il faut dire à nos auditeurs que William Faulkner considère chacun de ses ouvrages comme une faillite par rapport à ce qu'était son rêve, à ce qu'était sa pensée originale. Il existe donc de bonnes et de mauvaises faillites. On vous a comparé, William Faulkner, à Proust par les diverses manières de votre style, disons votre optique et votre façon de prendre un sujet. On a dit aussi que vous aviez construit, à partir d'une seule phrase, tout un livre. Ne pensez-vous pas que chaque sujet doit avoir son style?
Je dirais que chaque sujet impose inévitablement et irréductiblement indiscutiblement le style. L'écrivain simplement traite le sujet de la meilleure façon qu'il soit trouvé.
Abordons le problème du fond maintenant, après la forme. On dit l'univers de Faulkner comme on parle de l'univers balzacien. Voulez-vous, William Faulkner, nous définir, nous dire ce qu'est d'après vous cet univers?
C'est le monde de tout écrivain. Son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser cette définition plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire.
Il semble bien que dans cet univers que l'on a dit également inspiré de l'Ancien Testament, la rédemption n'a pas sonné. Il y a pour vos personnages une sorte de fatalité inexorable, il faut peut-être dire de prédestination à l'inexorable. Qu'en pensez-vous?
Je crois que l'écrivain ne peut pas se rendre compte de toutes ses qualités, toutes ses quantités, qui d'autres voient dans son œuvre. Si l'écrivain essaie de redéfinir pour lui-même ses qualités, ses motifs, il n'aurait pas le temps. S'il voulait aussi manger et dormir, d'écrire. Si l'artiste ne croyait pas dans l'homme et son avenir, il n'y aurait pas de raison d'être artiste.
Pierre Bergougnoux, vous semblez ému. C'est vrai que c'est une archive très rare que d'entendre la voix de William Faulkner. William Faulkner qui figure dans votre bréviaire de littérature à l'usage des vivants et dont vous dites... Et à chaque fois, c'est la même chose hein, pour les auteurs que vous avez choisis. Vous dites, lorsque William Faulkner songe à raconter des histoires, c'est dans une communauté rurale qui habite des maisons en planches et dispute son existence à la brousse environnante comme au temps primitif. L'écrivain, s'il parvient à écrire dans pareil contexte, ne pourra pas manquer de constater à chaque instant combien les manières, les vues, le langage de ses voisins diffèrent de l'image figée, fausse, esthétisante, que les artistes européens tentent à en donner dans le silence feutré, confortable de leur cabinet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous introduisez un auteur, vous le resituez dans son habitacle sensoriel, oui. Pour mieux le faire comprendre.
Oui, je ne vois pas sinon la possibilité d'expliquer de façon satisfaisante ce qu'il peut y avoir de neuf, de différent, parfois d'irruptif, comme c'est le cas pour Faulkner, dans son œuvre. Il y a des œuvres qui comptent, Mais elle ne tombe pas du ciel. La littérature sort du sol positif de l'existence, de l'expérience. Et c'est à ma connaissance la première fois qu'une œuvre de portée universelle jaillit d'un mot poudreux ou boueux, selon la saison, du plus sauvage ou d'un des plus sauvages des États du Sud, des États-Unis d'Amérique. La littérature, la grande littérature, est un produit des cultures urbaines. Aussi loin qu'on remonte, ce sont des villes et celles qui sont parvenues au stade le plus avancé de développement, ce qu'on appelait la cité hoplitique en grec, qui fournissent une contribution essentielle à l'explicitation de la vie. Or, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, eh bien, c'est un petit bonhomme d'Oxford, dans le Mississippi, qui pose sur la table quelque chose qui mérite toute notre considération, parce qu'il lève ce que je regarde comme la principale hypothèque qui est pesée sur l'expression de l'expérience, à savoir le fait que jusqu'à lui, non compris, ceux qui écrivaient appartenaient à une caste distincte, celle des intellectuels, des scribes, qui ne savaient rien de ce dont elles parlaient, et ce dont elles parlaient, c'était des exploits, par exemple, de l'aristocratie achéenne, ou de la chevalerie carolingienne combattante, ou de la bourgeoisie petite ou grande des vastes métropoles occidentales. Pour la première fois, un homme s'avance, qui sort d'un univers dont on peut supposer qu'il est parfaitement étranger à la culture lettrée, et qui accomplit ce que je regarde comme une révolution, à savoir il rétrocède la conduite du récit aux acteurs. Ceux qui, depuis l'origine, se trouvaient en quelque sorte étrangers à l'expression de leur sens, parce que la division du travail, depuis les premières cités, leur assignait l'action, le combat. Tandis que des hommes immobiles consignés en hexamètre dactylique ce que ces héros, ces fauves du temporel, comme disait Sartre, avaient accompli, pour la première fois, un tout petit tome qui a pris acte et des avancées et des impasses de la grande littérature occidentale, enfin européenne, fait retour sur les fondements même du récit et rend la parole à ceux qui en étaient dépossédés depuis le commencement, les acteurs en tant que tels, c'est-à-dire pris dans l'urgence du présent, dans ce qu'on pourrait appeler une chaîne irréparable. Si en écrivant on commet une erreur, vous le savez aussi bien que moi, on sort la gomme, on revient en arrière. C'est un temps réversible, car dans la vie, qu'on dispute son existence, son honneur, ses intérêts vitaux à quelque chose de redoutable qui est en face de nous, les structures du temps sont autres. Et la perception que nous avons du monde n'a pas grand-chose à voir avec l'idée que s'en fait quelqu'un qui a le cœur en paix, l'esprit en repos, et qui écrit après, de loin. C'est ça pour moi, Faulkner, celui qui, en quelque sorte, porte en pleine lumière, au jour, rend conscient un fait dont nous étions hantés depuis que le monde est monde, mais que la littérature n'avait pas encore pu prendre en compte. C'est pour ça que c'était une véritable fête que de l'entendre s'exprimer dans ce français un peu chuinté, un peu hésitant, et dire ce qu'il avait cru faire.
Et vous, Pierre Bergugnou, est-ce que vous écrivez l'esprit en paix? Parce qu'on a l'impression, quand on lit votre journal intitulé « Carnet de notes », je lis par exemple « Février 93 ». Jamais autant que cette année, le partage n'a été aussi tranché entre la moitié de ma vie que je consacre à la gagner et l'autre que je passe dans le pays perdu, où le plus clair de son sens est enfoui et le restera si je n'essaie de l'arracher à l'ombre épaisse, résistante, dont il est depuis toujours l'otage.
Lorsque on écrit, par le fait, on a l'esprit relativement en repos.
C'est parce que vous levez très tôt, 6 heures du matin.
Oui, mais libre à nous de trouver le biais le moins défavorable qui nous permette d'entrer dans cette sérénité relative ou de certaines choses qui habituellement nous fuient. Daignent comparaître et nous montrer ne fût-ce qu'un court instant leur visage. Il y a une heure de la journée, oui, 5-6 heures du matin, ou peut-être bien que le silence ambiant permet qu'on se rassemble, qu'on se reconnaisse et qu'on sache, si peu que ce soit, ce qui s'est passé, à quoi on est affronté, le minimum de sang-froid. Je pense, décidément, je suis en veine de pédanterie aujourd'hui, un joli mot du philosophe anglais David Hume. Qu'est-ce que la raison? Alors, pour les Français que nous sommes, dissertatifs, verbeux, c'est l'affaire de 3-4 pages. Et Hume, avec une parcimonie toute écossaise, c'est un jugement calme. Nous sommes parfois susceptibles d'un jugement calme, et il n'est rien si terrible que ce puisse être. Et nous avons tous fait des expériences terribles, qui ne consentent pendant un court instant, à revêtir approximativement la forme véritable, exacte, littérale, qui est la sienne. Et nous pouvons la porter noir sur blanc sur le papier. Oui, c'est une expérience tout à fait particulière et rare encore que celle de se trouver ou de se mettre en posture d'écrire. C'est ce que dit un autre anglais, Jack Goody, l'auteur d'un très beau livre qui s'intitule « La raison graphique ». Nous avons brisé, par le moyen de l'écrit, les limites anthropologiques de la mémoire, donc de la conscience. Nous sommes des êtres neufs. Ça fait à peu près 5000 ans qu'il s'est trouvé des hommes, une poignée d'hommes, pour objectiver la pensée, la transférer de cette pénombre intérieure où elle tournoie confusément dans le monde visible, où elle nous apparaît comme du dehors, sur un support quelconque, de l'argile, du bronze, du papyrus, du parchemin, du papier. Et nous pouvons faire passer la parole du registre primitif qui est le sien, celui de Louis, dans l'ordre du visible, où nous excellons, puisque nous sommes des créatures de la vue. J'ai fait cette expérience, vous aussi, nous sommes désormais des dizaines de millions de femmes, d'hommes, à pouvoir nous hasarder dans cet espace magique qu'ont ouvert, voilà, oui, à peu près 5000 ans, les premiers scribes de Sumer et d'Akkad. Pourquoi ne pas en profiter, ne pas extorquer aux dieux ces lumières qui nous avaient dérobées?
Nous allons écouter la voix d'un écrivain que vous aimez particulièrement et que nous aimons aussi beaucoup. Il s'agit de Julien Gracq, qui va parler donc de son texte « Un balcon, un forêt », dont vous parlez aussi dans ce bréviaire de littérature à l'usage des vivants. Julien Gracq va parler de « Un balcon en forêt ». C'est un entretien avec Jean Paget dans une émission de 1967 intitulée « Morceaux choisis ». Julien Gracq va parler de la manière dont l'expérience, selon lui, informe l'écriture.
Ce récit n'est pas du tout la transcription d'une expérience vécue, ou du moins elle ne l'est qu'à moitié. Pour moi, j'ai évidemment vu la guerre de 39-40, mais pas du tout dans les conditions qui sont décrites dans ce livre. Je me trouvais en Flandre, du côté de Dunkerque, et dans des conditions tout à fait différentes de la vie dans ces blocos de l'Ardenne. En fait, il y a eu probablement dans le choix du lieu, probablement la nécessité d'une transposition. Je ne peux pas utiliser directement une expérience personnelle. Ça me serait très difficile, j'ai l'impression, de raconter, ou du moins de faire le sujet d'un livre, d'une expérience directement vécue. Il y avait besoin d'une transposition. Et puis, en fait, il y avait dans ce lieu quelque chose qui m'attirait, qui était un peu pour moi symbolique de la guerre. C'est-à-dire un lieu très ambigu, ce blockhaus, c'est à la fois au premier étage, il représente la paix, en somme, puisque les gens vivent dans un endroit aménagé pour la vie, avec une cuisine, enfin, on y vit, en somme, à peu près normalement. Et puis, au sous-sol, en fait, la guerre, évidemment, est présente, sous la forme de ce blockhaus qui attend l'adversaire, là, dans l'alignement de la route. C'était assez symbolique, pour moi, de cette expérience très, très étrange qu'était la drôle de guerre, enfin. Situation extrêmement ambiguë où, au fond, on attendait quelque chose qui allait fatalement se produire, mais il restait toujours une sorte d'incertitude. Il n'était pas absolument évident ou certain, du moins pour les soldats, que la chose allait se produire. D'ailleurs, il était visible qu'en plus, ils refusaient d'y penser, ils refusaient d'en parler. Et cette situation d'attente, de suspens, est, si vous voulez, une situation qui m'est assez familière en imagination. Alors il s'est trouvé, c'est ce qui fait probablement que j'ai choisi de traiter ce livre qui est, disons, le seul proche du réel, enfin qui s'insère dans des circonstances historiques précises, c'est qu'en fait il s'est trouvé pendant quelques mois que les choses ressemblaient, enfin, à la situation imaginaire où je me place par préférence quand j'écris mes livres. C'était, n'était pas du tout agréable, mais c'était pour moi une situation qui ressemblait, enfin d'une manière angoissante d'ailleurs, aux situations imaginaires, c'est-à-dire d'attente et au fond d'attente d'une sorte de catastrophe, qui sont celles de tous mes livres à peu près. C'est pourquoi, je pense, il s'est trouvé jusqu'ici que c'était le seul qui avait une allure réaliste, alors qu'en réalité, je ne l'ai pas choisi pour traiter un morceau de vie vécue en réalité, mais tout simplement parce que ces données correspondaient, enfin sans aucune difficulté, à une situation imaginative préférée.
Il faut rappeler que Un balcon en forêt a été publié en 1958, qu'auparavant il y avait eu Le rivage des Sirtes en 1951, et qu'effectivement dans cette archive, Julien Gracq explique à quel point il y a transmutation de l'écriture d'une expérience vécue. C'est exactement d'ailleurs ce que vous retranscrivez dans votre bréviaire.
Oui, je pense. Et en même temps, nul n'a parlé mieux que Gracq de cette expérience du monde, d'un certain état du monde qui a été le nôtre entre, je ne sais pas, le 18e siècle, la révolution culturelle du 18e siècle, et les années 1950, que la société agraire traditionnelle disparaît en France, parce que les temps sont accomplis, qu'il faut se moderniser, créer une industrie lourde, enfin développer une industrie lourde, se doter d'un système, comment appelle-t-on ça, le tertiaire. Voilà, Gracq est ce garçon qui, dans le droit fil d'un certain nombre d'approches tout à fait séduisantes, je pense à Rousseau, je pense à Chateaubriand, à tous ceux qui ont restitué le sentiment très, très, très exact, très, très précis de l'être au monde dans un pays de vieille civilisation, dans une très, très vieille société. Après Gracq, c'est fini. Gracq est celui qui a l'expérience de la terre et de la guerre, enfin, du braconnage, une culture à la fois marquée au coin de la maîtrise la plus souveraine de l'idiome, d'un côté, mais de l'autre, quelque chose par quoi il appartient à ce moment de l'histoire, ce dont témoigne, par exemple, l'étrange voisinage entre l'aspirant Grange, sous les traits duquel il s'est peint assez précisément, et ces gars qui sont des ouvriers métallos de Saint-Nazaire et qui, à l'occasion, s'entendent attendre des décollés pour agrémenter quelque peu l'ordinaire de la maison forte du balcon en forêt. C'est, Grac est un moment, je pense qu'un certain état de civilisation a cristallisé sous sa plume avec un degré de netteté, une puissance de suggestion à nul autre pareil.
Comme vous, Julien Grac était professeur,
oui.
Discret, comme vous. Comment distinguez-vous les différents moments de votre vie, Pierre Bergougnou? Parce que vous êtes un père admirable, vous êtes père de deux fils, on comprend en tant que lecteur de votre journal que vous occupez beaucoup de vos enfants, que vous les accompagnez sur le chemin de la vie, qu'en même temps vous êtes un homme exemplaire au niveau du foyer, puisque vous faites la lessive, vous faites les courses. Vous avez l'air étonné, mais il y a beaucoup de mecs qui font pas grand-chose hein, dans une maison. Tandis que vous, vous assurez, hein. Et d'autre part, il y a le boulot, vous avez dit que vous le leviez très tôt le matin pour pouvoir en écrire, vers 5-6 heures du matin. Vous lisez aussi énormément. Comment distinguez-vous le père de famille, l'époux admirable, le lecteur, le professeur et l'écrivain? Toute une vie.
J'essaie de ne pas perdre de temps.
Pourtant, vous enragez dans votre journal, et nous enrageons comme vous quand vous perdez du temps, justement, dans les embouteillages.
Oui. J'avais plusieurs siècles à rattraper. Enfin, je veux dire que cela vaut pour tous les hommes et les femmes de ma sorte. Nous venions de loin. Le temps dans lequel j'ai baigné pour commencer était celui des époques antérieures, qui étaient partout ailleurs révolues, sauf chez nous, enfin je veux dire dans ces départements ruraux, sans que naturellement personne ne se soit soucié de nous en aviser. Et lorsque j'ai pris conscience de ce qui se passait, j'avais 17 ans, m'expédier à l'internat des classes préparatoires, j'ai pris la mesure du dénivelé qui existait depuis toujours entre bien cet arrière-pays rustique et puis les foyers urbains où manifestement on avait des vues tout à fait différentes de celles que ingénument nous avions embrasser parce qu'il n'y en avait pas d'autres à notre disposition. Je me suis fait parfois l'effet de lire, non pas seulement pour mon compte propre, mais pour tous ceux qui s'en étaient trouvés empêchés lorsque ça avait été le moment. Parce qu'ils parlaient pas toi et que les livres sont imprimés en français. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent qui leur aurait permis de se procurer des volumes imprimés. Ou parce que, c'est peut-être plus délicat, parce que la sorte de vie qu'ils avaient ne leur faisait pas désirer d'être exactement fixé sur la sorte de vie que l'on a. Le besoin, si vous voulez, tardif, cartésien, de conduire les choses dans cette espèce d'évidence, où elles peuvent entrer sous la réserve qu'on leur pose les questions qu'il faut. Les ethnologues, allons-y, appellent ça l'acculturation. On passe d'une certaine forme de conscience traditionnelle à une autre forme de conscience de caractère rationnel, c'est-à-dire pour l'essentiel instruite, cultivée, ce qui suppose l'accès à l'enseignement des lycées et de l'enseignement supérieur.
Et les sociologues appellent ça la reproduction. Nous
aussi.
Allons écouter la voix de Pierre Bourdieu, qui a été très important dans votre itinéraire. Pierre Bourdieu va parler de l'accélération de la prise de conscience des inégalités scolaires à la suite des événements de mai 68. C'est une émission du 26 septembre 1977.
Je pense que parmi les effets des événements de mai 68, il y en a un qui est important, c'est une certaine accélération de la prise de conscience collective, au moins au niveau des classes supérieures et des classes moyennes, je ne dis pas des classes populaires, des phénomènes d'inégalité sociale dans le rapport avec le système scolaire. Bon, je pense qu'il y a eu une certaine accélération de la prise de conscience. Cela dit, cette prise de conscience est toute relative. Je viens de lire récemment une enquête qui a été faite autour de 72, où on interrogeait les gens sur les facteurs de la réussite scolaire. On leur demandait, pensez-vous que la réussite des enfants dépende surtout de leur intelligence, de leur milieu familial, etc. Et il était frappant de voir que la conscience des mécanismes réels, encore une fois je dis mécanismes, il faut toujours mettre entre guillemets, la conscience des mécanismes réels de la transmission du patrimoine culturel est distribuer comme les chances de réussir dans le système scolaire. C'est-à-dire que plus on est instruit, plus on sait que ce n'est pas le don qui fait réussir. C'est assez paradoxal. Cela veut dire que C'est pas aussi simple, hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que c'est surtout dans les classes moyennes que la conscience des effets du milieu social est maximum. Dans les classes supérieures, la conscience est très grande, mais on croit encore, et pour cause, puisque c'est un des principes de justification des dominants, de croire que leur domination est fondée sur leur intelligence. On croit encore beaucoup à l'intelligence. Cela dit, c'est dans les classes populaires, et en particulier chez les paysans, que l'ignorance du rôle de la famille, du milieu familial dans la réussite scolaire des enfants est maximum. Autrement dit, ce sont les principales victimes enfin, de l'inégalité de capital culturel qui en sont le moins conscients. Alors ça pose un problème très très intéressant du point de vue politique et du point de vue des rapports entre la sociologie et la politique. Autant on peut penser enfin, que les inégalités économiques affleurent à la conscience de ceux qui en sont victimes, jamais de façon aussi simple qu'on le croirait. Il y a toutes sortes de manières de se masquer le fait qu'on est non privilégié. Mais dans le cas des inégalités culturelles, on a affaire à un phénomène tout à fait paradoxal, en ce sens que, d'une certaine façon, l'aliénation exclut la conscience de l'aliénation. C'est-à-dire que les gens qui sont privés de culture sont privés de la privation, sont privés de la conscience de la privation. Et a fortiori, ils sont privés de la conscience des mécanismes qui sont responsables de cette privation. Ils ne savent pas que, bon, si leur enfant ne réussit pas à l'école, ce n'est pas parce qu'il est plus bête. C'est très très important, ça, politiquement, je pense, et socialement. Ils pensent que si leur enfant ne réussit pas, c'est parce qu'il est plus bête, et non parce qu'il est issu d'un milieu qui ne transmet pas l'ensemble de savoirs, de connaissances, qui est la condition tacite de la réussite.
Pierre Bergogneau, je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « École, mission accomplie ». Que vous dites dans ce livre, j'aimerais que les élèves comprennent que ce qui arrive aux hommes, s'ils en sont, c'est dans des récits, des pièces de théâtre, anciens ou récents, qu'ils le trouveront porté à son plus haut degré de clarté, de splendeur aussi. Donc vous rejoignez aussi les propos de Pierre Bourdieu.
Oui, comment ne pas. Oui, je pense que personne n'a versé une contribution aussi décisive ou aussi éclairante à la contribution de l'école à la reproduction du monde social, que ce sociologue d'origine méridionale et rurale, qui était sans doute, par le fait même, aux premières loges.
Est-ce que c'est pas en train de s'aggraver depuis que Pierre Bourdieu réfléchissait à cette question, en ce moment ?
Comme la situation politique est sans issue, et que l'école est un des domaines de la vie sociale, je pense que ce qu'on constate au plus haut niveau se répercute dans le monde scolaire.
Vous revendiquez haut et fort l'héritage de mai 68 et ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans une tribune que vous avez publiée dans Le Monde en 2008, intitulée « Nous, les sexagénaires aux 40 printemps », vous insurgez justement contre cette une sorte d'immobilité du temps et une aggravation des inégalités sociales.
Oui, oui, nous avons eu 20 ans. Tout paraissait possible. Il semblait permis, enfin, de passer outre à tout ce qui peut s'opposer à ce que chacun devienne simplement soi. Et puis, au lieu des lendemains qui chantent, de la fête perpétuelle où il semblait que nous fussions, pardonnez-moi, entrés. Eh bien, espèce de...
Ne vous excusez pas pour employer l'imparfait du subjonctif, c'est très beau.
On est en pleine régression. Enfin, je veux dire, pour des gens qui, à 18-20 ans, se sont retrouvés au cœur de mai 68 et qui, le temps aidant, constatent le désert où ils s'avancent. Quelle déconvenue, surtout lorsque j'avais vu une autre tribune, il était question de bazarder l'héritage de mai 68 et au premier rang de l'héritage en question, Pierre Bourdieu. Alors bon, ça n'a fait qu'un tour, et puis j'ai pris la plume pour dire que c'était peut-être aller un peu vite en besogne, et qu'un certain nombre des choses qui s'étaient produites alors méritaient peut-être de durer, du moins autant que nous-mêmes serions de ce côté-ci de la tombe. Ça m'avait irrité. Je suis encore irritable à mon âge.
Merci Pierre Bergogneau. Je recommande à nos auditeurs de lire tous vos livres, aussi bien les romans, aussi bien le journal, mais aussi des livres de philosophie, car il faut rappeler aussi que vous avez publié un très beau texte sur Descartes qui s'intitule « Une chambre en Hollande ». Merci Pierre Bergogneau, on se retrouve demain soir, donc merci à Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Brigitte Bouvier, Didier Lagarde et Philippe Bredin. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.